Auditeurs, bienvenue dans Okapi Service. Merci d'être branchés sur la fréquence de la paix. Aujourd'hui, nous parlons de l'opportunité de création. Quelle est l'opportunité de création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo? Nous aurons plusieurs intervenants, parmi lesquels Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Merci à vous tous qui êtes branchés sur la fréquence de la paix. Toute l'équipe est en place pour vous servir. À la mise en onde, Bob Landou, Tati Mapoukou assure la réalisation. Marcel Ngombo est à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matwaki. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi, Okapi.
Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de l'opportunité de création d'un tribunal pénal international pour la RDC. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la création de ce tribunal en République démocratique du Congo. C'est là pour juger les auteurs des crimes et violations des droits de l'homme perpétrés dans la partie est du pays. Cette réclamation intervient à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du rapport Mapping publié en 2010 par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport documente plus de 600 graves crimes qui se sont produits en RDC entre 1993 et 2003. Alors pour en savoir plus, nous recevons à présent Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018. Dr Denis Mukwege, bonjour.
Bonjour monsieur.
Qu'est-ce qui vous a motivé à lever la voix pour réclamer l'application du rapport Mapping 10 ans après?
Je crois que la motivation est très simple, c'est que à l'hôpital nous vivons des drames des populations congolaises, spécialement les femmes et les enfants qui sont les cibles des groupes armés qui non seulement tuent mais violent et détruisent la population congolaise. Hier, nous avions observé dans une impuissance totale le viol de nos mamans, le viol de nos sœurs, de nos filles. Et aujourd'hui, nous assistons à un viol de nos bébés, de nos enfants. Et je crois qu'après avoir détruit toute une génération, aujourd'hui, on s'attaque aux futures générations. Je crois que il nous appartient de prendre nos responsabilités citoyennes, de pouvoir utiliser les outils qui existent pour pouvoir mettre fin à ce type de pratiques. Je crois que vous parlez des 10 ans, mais en réalité, je crois que ça fait un quart de siècle qu'à l'est du Congo, nous avons des conflits interminables, et ces conflits interminables, malheureusement, ne font que détruire le tissu social, détruire le tissu économique, et en fait, ne permettent pas au Congo de pouvoir démarrer. Alors que les Nations Unies ont fait une cartographie faite par des professionnels qui ont cette cartographie, comme vous venez de le dire, a pu mettre, identifier 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et même des crimes de génocide, si un tribunal compétent pourrait se prononcer ou qualifier ce qui a été commis. Je crois que laisser ces crimes impunis, ça veut dire tout simplement que nous acceptons que ça continue. D'autant plus que nous avons, pendant 20 ans maintenant, on a utilisé les armes pour chasser Mobutu. Les gens, on les a appelés des libérateurs, mais en fait, il n'en était pas question. On a fait des négociations, on a fait des accords, et tout ça, on a fait des élections. Et tout ça, ça n'a pas amené la population congolaise à vivre en paix, à pouvoir se projeter dans le futur, à pouvoir faire un développement de notre pays. Aujourd'hui, le seul outil qui nous reste, c'est utiliser ces rapports mapping qui a des recommandations que je trouve peuvent nous permettre de pouvoir avancer, et spécialement la création d'un tribunal pénal international pour le Congo, les chambres spécialisées mixtes, faire des réformes du secteur de sécurité, des réformes institutionnelles et procéder à des réparations et faire la réconciliation. Je crois que c'est une voie qui peut peut-être nous permettre de retrouver la paix dans ces pays où malheureusement 25 maintenant un quart de siècle de conflit, je ne vois pas la voie de sortie.
Docteur Denis Mukwege, pensez-vous qu'il est possible de mettre en place ces chambres spécialisées dans notre pays tant que les auteurs de ces crimes se retrouvent dans l'armée, dans les assemblées, dans les institutions du pays? Est-ce qu'ils vont pas faire obstacle à la mise en place de cette justice transitionnelle?
Je crois que effectivement les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de génocide ne peuvent pas rester impunis. Je crois qu'on l'a dit, on continue à le répéter. Et si on laisse ces crimes impunis, on voit très très bien les conséquences. C'est que ces crimes ne concernent pas seulement les Congolais, ce sont des crimes qui concernent notre humanité. Et ici, j'en appelle à la responsabilité, non seulement la responsabilité nationale, mais aussi la responsabilité internationale. C'est possible de pouvoir mettre ces institutions en place s'il y a la volonté politique au niveau national et au niveau international, et certainement au niveau donc du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit veiller sur la sécurité mondiale. Aujourd'hui, on voit très très bien que les jeunes pensent qu'ils peuvent accéder à des postes de responsabilité en allant en brousse. Ils tuent, ils violent, et puis après ils demandent, ils font une reddition avec des conditions. Ça ne peut pas continuer. Il faut absolument que nous puissions mettre notre pays dans une situation où les gens vont comprendre que pour être un général, il faut faire. Nous avons une école à Kananga où il y a des académies militaires. Et je crois que c'est ça la voie pour devenir général dans l'armée. Pas tuer ses compatriotes, pas violer, montrer qu'on est violent pour exiger après d'avoir une position dans l'armée. Et donc moi je crois fermement qu'il faut une volonté politique nationale, internationale, pour pouvoir mettre fin à ce que nous vivons maintenant depuis un quart de siècle.
Le gouvernement prépare deux projets de décrets qui prévoient une justice transitionnelle sur demande du président de la République. Le premier décret pourra permettre la mise en place d'une commission nationale des justices transitionnelles et réconciliation. Le deuxième concerne l'indemnisation des victimes. On ne parle pas encore de la mise en place des chambres mixtes. Pensez-vous qu'il y a suffisamment de volonté politique pour faire évoluer les choses?
Je crois qu'il appartient à tous, à nous tous Congolais, de pouvoir créer cette volonté politique. D'abord, je tiens à féliciter le président de la République pour cette initiative. C'est un pas, mais probablement, même ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, puisque je ne vois pas comment on peut demander une commission de réconciliation où on va se réconcilier sans qu'il y ait un système judiciaire qui permet au moins à ce que les gens qui ont commis ou qui ont subi les victimes puissent s'exprimer. Ils doivent s'exprimer devant une commission ou ça devrait être devant des juges. Moi, je trouve que chambre spécialisée mixte qui permet d'avoir des juges congolais à côté de leurs collègues étrangers, pouvait donner une base de justice indépendante et qui pouvait permettre à ce que toute personne qui a été lésée d'une manière ou d'une autre puisse s'exprimer et que les juges puissent décider. Sinon, je ne vois pas une autre façon de procéder par la réconciliation, alors qu'il n'y a pas eu vraiment une confrontation devant des juges, devant des personnes qui ont une expérience pour permettre à ce que chaque victime puisse s'exprimer. À mon avis, je crois que les chambres spécialisées mixtes sont très très importantes puisqu'elles vont en plus permettre à ce que nous puissions commencer à construire un système judiciaire assez solide au niveau national en utilisant donc les juges nationaux et avoir des juges qui viendraient de l'extérieur pour renforcer notre système judiciaire. Et de l'autre côté, il nous faut absolument un tribunal pénal international, puisque les crimes qui ont été commis au Congo, ces crimes n'ont pas été commis que par des Congolais. Des crimes ont été commis par des étrangers. Et je crois qu'on ne peut pas laisser ces crimes impunis. Je crois que si nous devons dire plus jamais ça, il faudrait absolument que nous puissions passer par là. Et il faut aussi voir que nous n'allons pas inventer la roue. Ça s'est passé ailleurs. Je ne vois pas pourquoi nous voulons aller dans tout à fait une autre direction qui va nous faire perdre du temps alors que nous avons l'expérience des autres. Le tribunal pénal international pour le Congo, puisque tout simplement aujourd'hui, la CPI par exemple ne peut pas, n'a pas de compétences sur tout ce qui s'est fait avant 2002. Et donc cette condition où nous savons qu'il y a aussi des étrangers qu'on aura du mal à pouvoir interpeller en République démocratique du Congo, les extraditions seront très très difficiles. Je crois qu'il faut faire une bonne fois pour toutes une justice transitionnelle, pas prendre des petits morceaux de justice transitionnelle, mais il faut considérer la justice transitionnelle dans son ensemble. Et dans son ensemble, c'est bien sûr l'aspect judiciaire, la réforme des institutions qui va comprendre également la réforme de notre système de sécurité et absolument il faut une réconciliation et des réparations pour les victimes.
Alors, docteur Mukwege, pensez-vous que ce tribunal devrait être installé ici même, en République démocratique du Congo, ou bien il peut être établi dans un autre pays étranger?
Je pense que les chambres spécialisées mixtes doivent absolument être établies au Congo. Aujourd'hui, je vois par exemple les cours militaires. Ici, je veux vraiment féliciter nos magistrats militaires qui font un travail impressionnant. Je crois que peut-être ce n'est pas suffisamment dit, mais nous avons des experts et je crois que les magistrats militaires en République démocratique du Congo, ils sont en train de faire un travail qu'il faut souligner et je crois que compléter pour qu'on ait suffisamment de juridictions, ces juridictions doivent être nationales, peut-être soutenues par des appuis extérieurs, mais ça doit être des juridictions nationales. Par contre, il y a un tribunal pénal international pour le Congo, c'est pas à moi de décider où ce tribunal pourrait être installé.
Voilà. Et par rapport à ces magistrats congolais, comment, par exemple, les mettre à l'abri des pressions politiques, des pressions des parts et d'autres, de la corruption et autres?
C'est pour cette raison que nous les voulons, ces juridictions nationales, nous les voulons mixtes, ou ce qu'ils ont proposé. Il faut savoir que dans les termes de référence de ce qui ont fait ces projets de rapport mapping, ils ont examiné également notre système judiciaire. Ils sont arrivés à cette conclusion que ce système judiciaire a des lacunes et a besoin d'être renforcé. Et je crois, par entre autres, ce que vous venez de dire, si on a des chambres spécialisées mixtes, on aura des juges qui seront indépendants qui viendront d'ailleurs, qui n'ont pas, qui ne peuvent pas subir les mêmes pressions que nos juges. Je crois que ça va beaucoup plus encourager nos juges d'aller d'avant. Mais comme je viens de vous dire, moi je vois nos juges militaires, moi je les félicite pour le travail qu'ils font dans des conditions difficiles. Ce sont des conditions difficiles puisqu'ils n'ont pas d'appui. Souvent, ce sont des chambres foraines organisées par des organisations de la société civile ou des organisations onusiennes. Et ça, ce sont des conditions très, très difficiles dans lesquelles ces magistrats travaillent. Mais quand vous voyez le travail que ces magistrats produisent, vous comprenez très bien que si on les mettait dans des conditions de sécurité, d'indépendance, et qu'ils aient une sécurité aussi logistique et matérielle, ce sont des magistrats qui vont nous faire un travail impressionnant. Et je crois que le Congo ne souffre pas de manque de ressources humaines. Nous avons des compétences, nous avons des capacités. Mais si vous avez des compétences et que vous n'avez pas le moyen d'exercer votre travail, quelles que soient vos compétences, on vous rend incompétent par le système en place. Et moi, je pense que cette indépendance pourrait venir du fait que ces chambres spécialisées mixtes seront soutenues par les Nations Unies. C'est une des recommandations. Et je trouve que nous avons des magistrats qui peuvent faire un très bon travail s'ils ont ce soutien qui viendrait de notre pays, mais aussi des Nations Unies.
Docteur Mukwege, est-ce qu'il est nécessaire de publier les noms des auteurs des crimes qui sont cités dans le rapport Mapping?
Vous comprendrez avec moi que les noms des victimes ont été publiés et les lieux où les crimes ont été commis ont été publiés. Pourquoi on cache les noms des auteurs de ces crimes? Raison pour laquelle ces crimes continuent, puisque aujourd'hui les victimes subissent des intimidations de la part de leurs bourreaux. Les bourreaux se comportent tout à fait en territoire conquis et ils font ce qu'ils veulent, puisque tout simplement ils sont protégés. Et protégé depuis maintenant plus de 20 ans, vous comprenez que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Avec les organisations de la société civile, nous avions été à Genève pour demander au commissaire aux droits humains des Nations Unies de publier cette liste. Il nous avait répondu qu'en fait, il ne voulait pas publier la liste pour protéger les victimes et les témoins. Mais aujourd'hui, nous avons plutôt le contraire. Ce sont les bourreaux qui sont protégés, puisque les victimes continuent à subir de la part de ces bourreaux. Nous avons maintenant des femmes qui ont été violées 2-3 fois. Il y a des groupes armés qui font la reddition, ils retournent en brousse, etc. Et donc moi je pense que on ne peut pas protéger les bourreaux à la place des victimes et des témoins. Il faut avoir un mécanisme qui permet de protéger les bourreaux, protéger les victimes et les témoins, et que les bourreaux soient devant leurs juges naturels et pas vraiment les laisser dans la nature avec tout le pouvoir qu'ils ont, qu'ils accumulent d'ailleurs. Je suivais dans un débat un général qui il est aujourd'hui général de brigade, mais il a commis des crimes presque dans toutes les provinces, et dans chaque province où il était muté, il commettait des crimes, et il a été aussi Kivu, au Nord Kivu, au Kasaï, en Équateur, et partout il commet des crimes, et après chaque crime, il monte en grade. Vous comprenez très bien que cette personne, on est en train de leur donner beaucoup de pouvoir qui leur permet tout simplement de taire les victimes et à la limite de les intimider.
Bien, docteur Denis Mukwege, aujourd'hui on sent une certaine mobilisation au niveau national, tant au niveau national qu'international. On a suivi la réaction de l'Union européenne par rapport à ce rapport et à la mise en place du tribunal. Alors comment la population congolaise peut-elle s'approprier ce rapport Mapping?
Je crois que d'abord, vous les journalistes, vous avez un rôle très important, comme je viens de vous dire. Ces crimes qui sont décrits dans les rapports Mapping, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, et probablement même des crimes de génocide. Et des crimes comme ça sont d'abord imprescriptibles. Deuxièmement, ces crimes ne concernent pas que les Congolais, ça concerne toute l'humanité. Et nous devons être responsables par rapport à ce que nous allons transmettre aux générations futures. On ne peut pas laisser aux générations futures une situation aussi dramatique que les Congolais ont connue. Nos enfants ont besoin d'une mémoire, de connaître ce qui s'était passé, pourquoi ça s'est passé, comment nous nous sommes comportés par rapport à ça. C'est la seule façon de pouvoir prévenir que cette crise puisse se répéter dans le futur. Et aujourd'hui, je crois que si nous prenons conscience, vous les journalistes, vous avez cette obligation de pouvoir en parler, de créer des débats autour de cette question, que ça ne soit pas un débat, une question posée par une personne. Et je suis très très content de voir que de plus en plus il y a des voix qui s'élèvent pour demander à ce qu'on puisse débattre sur cette question, et ça c'est déjà une très bonne chose. Mais j'ai dit, les journalistes peuvent jouer un rôle très important de sensibiliser la population, que la population comprenne que pour prévenir la répétition, il faut absolument que nous puissions parler de ce qui est arrivé, analyser, pouvoir comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi aujourd'hui les Congolais se comportent comme il faut, et pouvoir se dire quelles sont les solutions. Ça, je pense que c'est à vous d'organiser des débats. Il y a des experts. Moi, je ne suis pas expert en justice, donc nous avons des juristes qui peuvent débattre de ces questions et nous faire la lumière par rapport à ce qui s'est passé. Ça, c'est la première chose. Je crois que les journalistes ont un rôle très, très important dans le veille de la conscience nationale par rapport à notre histoire de ces 25 dernières années. Deuxièmement, je crois qu'il faudrait absolument, dans cette justice transitionnelle que le président de la République prône et qu'il soutient aujourd'hui, il faudrait aller de l'avant. Nous devons enseigner, il faut que dans nos manuels de l'histoire, dans nos manuels de géographie, qu'on puisse parler de ces 25 dernières années. Nous sommes victimes des richesses que nous avons. Il faut que nos enfants connaissent qu'est-ce que nous avons comme richesse en République démocratique du Congo. C'est que ces richesses présentent comme danger pour nous. Et comment il faut protéger ces richesses? Ça doit s'enseigner dans les écoles. Notre histoire doit être enseignée dans les écoles. Nous avons besoin de mettre des mémorials partout pour que les gens puissent savoir qu'il s'était passé une histoire triste, mais cette histoire triste avait des raisons et qu'il faut éviter que ça puisse se répéter. Moi, je crois qu'aujourd'hui, chaque Congolais qui comprend a la responsabilité. Vous, la presse, les enseignants, les professeurs et chaque Congolais qui comprend devrait prendre cette responsabilité de dire nous devons enseigner l'histoire de notre pays pour éviter que nous soyons humilié encore une fois, puisque tout simplement Dieu nous a bénis avec tout ce qu'il nous a donné. À mon avis, c'est une responsabilité collective de pouvoir vraiment faire la mémoire.
Pour terminer, docteur Denis Mukwege, en tant que prix Nobel de la paix, comment comptez-vous travailler pour l'avènement d'une paix véritable, d'une paix durable en République démocratique du Congo?
Je crois que le travail que je fais déjà, sensibilisé par rapport au rapport Mapping, c'est déjà un travail pour nous amener. Je ne crois pas qu'il y aura la paix. Je l'ai dit dans mon discours à Oslo, il n'y aura pas la paix sans justice. Et la justice ne se négocie pas. J'étais très clair par rapport à ça. On aura la paix seulement s'il y a la justice, si nous sommes à mesure de construire un état de droit. Et cet état de droit ne peut pas se construire. Le fondement, la base de cet état de droit, il se trouve dans notre histoire. Et notre histoire, c'est ce que nous sommes en train de réclamer. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, demander à la communauté nationale et la communauté internationale de pouvoir tenir compte de ces rapports Mapping, c'est une façon de construire la paix. Et le rapport Mapping, c'est décrit des crimes de 1993 à 2003. Mais nous devons savoir qu'après 2003, il y a eu encore beaucoup d'autres crimes et ces crimes continuent jusqu'aujourd'hui. Et donc, lorsque nous aurons ces juridiction nationale mixte et internationale, donc une juridiction internationale, je pense que ça permettra non seulement de traiter les crimes de 1993 à 2003, mais de 1993 à 2020. Les crimes se sont commis même la semaine dernière à Ituri. Et donc moi je pense que ça c'est une manière de construire, pour moi c'est une manière de construire la paix. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut sensibiliser, il faut que chacun comprenne que la paix c'est l'affaire de nous tous. La paix ce n'est pas l'affaire du président de la République, des ministres, c'est l'affaire de chaque citoyen qui doit travailler pour construire cette paix. Et on n'aura pas de développement durable si on n'a pas la paix. Nous avons tout ce qu'il faut pour rendre ce pays un paradis, mais si chacun ne donne pas lui-même, ne se sacrifie pas pour que ce pays devienne ce que Dieu a voulu qu'il soit, je crois qu'on laissera des prédateurs nous imposer leurs droits, et ça je crois que leurs lois, je crois que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut que chacun s'engage pour que nous puissions vraiment transformer ce pays en paradis.
Bien, docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, nous vous disons merci et excellente journée.
Je vous remercie.
Nous disons également merci à notre consoeur Cynthia Bachizi de Radio Okapi Bukavu d'avoir facilité la réalisation de cette interview.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Okapi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Okapi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Bien, en République démocratique du Congo, des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. C'est là pour juger les auteurs des crimes perpétrés à l'est du pays, ainsi que les cas avérés des violations des droits de l'homme. Cette réclamation intervient à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du rapport Mapping, publié en 2010 par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport documente plus de 600 graves crimes qui se sont produits dans l'est de la RDC entre 1993 et 2003. Alors pour en savoir plus, nous recevons à présent Maître Omar Kavota, vice-président du conseil d'administration du Centre d'études pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO en sigle. Maître Omar Kavota, bonjour.
Mais bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous dans cette émission.
Bien, la première question de savoir, c'est quoi un tribunal pénal international?
Alors, le tribunal pénal international, c'est en réalité un tribunal qui est mis en place par un État lorsqu'il s'observe que cet État a connu des graves atrocités, des graves crimes et qu'il n'est pas en mesure de pouvoir organiser sa propre justice. En réalité, il s'agit d'un tribunal composé par des juges étrangers, et ces juges étrangers jouent le rôle des juridictions judiciaires, mais pour obtenir la répression des crimes qui ont été perpétrés à l'occasion d'une situation, ça peut être une situation de crise, ça peut être une situation de guerre, ça peut être une situation que l'État n'a pas su contrôler. Donc, il s'agit en réalité d'une juridiction pour toute présomption, mais à la différence, les juges de cette juridiction, de ce tribunal, sont des étrangers et ils ne sont pas donc des nationaux. Et on a eu des expériences pour certains États, comme au Rwanda, on a eu les TPIR, en Yougoslavie, par le passé, on a eu le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, TPIY. Donc voilà, et puis, c'est en réalité une juridiction, mais qui réprime des crimes? Donc, qui réprime des infractions, mais des grandes, de haute portée, des graves crimes, effectivement, mais qui est mise à place et qui est composée essentiellement des magistrats étrangers et non pas des magistrats du pays.
Nous avons également en ligne Maître Georges Kapiamba qui vient de nous rejoindre. Il est coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Maître Georges, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons aujourd'hui de l'opportunité de création d'un tribunal pénal international pour la RDC. La première question était de savoir c'est quoi un tribunal pénal international et quel est son rôle.
Bon, le tribunal pénal international est une juridiction internationale qui est censée être créée sur base d'un traité ou d'une convention liant les États, principalement membres des Nations Unies, qui a compétence de pouvoir enquêter et poursuivre les crimes commis sur le territoire d'un État ou de plusieurs États, sur base de rapports qui ont été déjà produits quant à ceux. Et s'agissant de la situation de la République démocratique du Congo, c'est vrai que après la publication du rapport Mapping, il y a eu deux propositions qui ont été élaborées pour savoir comment faire en sorte que les crimes recensés par le rapport Mapping, plus de 600 incidents, puissent faire l'objet effectivement d'une enquête et que les auteurs ainsi que leurs complices puissent être poursuivis et conformément au droit international. Il avait été esquissé la possibilité de créer un tribunal pénal international sur la République démocratique du Congo, mais après analyse, il a été constaté que le contexte international de cette période, c'est-à-dire post-publication du rapport, n'était pas favorable à la création d'une pareille juridiction parce que nous trouvions en face d'un certain nombre d'États permanents au Conseil de sécurité qui s'étaient montrés défavorables à une pareille approche. Et deuxièmement, il était aussi allégué qu'après le tribunal ad hoc créé sur l'ex-Yougoslavie et sur le Rwanda, la communauté internationale avait apparemment constaté que ces tribunaux engageaient beaucoup de dépenses et que, en termes de nombre de dossiers traités, ils étaient vraiment en termes inférieurs par rapport aux attentes de l'ensemble de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle il s'était dégagé de plus en plus une opinion plus ou moins dominante qui considère qu'il faut carrément créer ce qu'on appelle les types de juridictions mixtes au sein des États ou de l'État concerné. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans les recommandations du rapport Mapping, il a été esquissé la possibilité de faire créer au sein des juridictions congolaises des juridictions spécialisées mixtes, communément appelées chambres mixtes, devant être créé conformément à la loi congolaise, mais en coopération avec les Nations Unies, de manière à assurer la participation du personnel international au sein de l'organisation et du fonctionnement des dites juridictions mixtes spécialisées. Et cela a aussi comme avantage de faire drainer les moyens financiers et logistiques nécessaires au fonctionnement des dites juridictions. Et donc, pour le moment, nous pensons, pour nous, la CAJ, qu'il faut voir comment faire reprendre par le gouvernement les projets de loi portant création de chambres spécialisées mixtes qui ont eu malheureusement échoué à deux reprises. Vous vous rappelez qu'à l'époque, le professeur Luzolo avait présenté un projet devant le Sénat qui a été déclaré irrécevable. Par la suite, Madame Matipa Mumba Matipa, qui l'avait succédé, avait présenté aussi un autre projet devant l'Assemblée nationale qui avait été rejeté. à ce qu'il y a eu absence totale de volonté politique. Et donc maintenant, il est plus qu'urgent que cette volonté se développe et que, avec la volonté exprimée par le président de la République pour qu'on mette en marche ou en mouvement le processus d'une justice transitionnelle, que les deux puissent être mis en mouvement. Ainsi, nous saurons être capables, c'est-à-dire le pays, la RDC sera capable de régler les contentieux d'impunité liés au rapport mapping.
Bien. Nous allons accueillir Dodé depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour également à l'invité et à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent partout ailleurs.
Bien, nous parlons aujourd'hui de l'opportunité de création d'un tribunal international pénal pour la RDC. Quelle est votre question?
Voilà, merci. D'abord, je salue la thématique et j'aimerais, à mon point de vue, dire ceci. Dans le contexte de nos lois qui octroient des privilèges, des juridictions et des poursuites, il serait important que le tribunal pénal soit installé afin de poursuivre tous les auteurs qui sèment la désolation dans la partie de l'Est de notre pays. Et alors, j'avais deux préoccupations à soumettre à l'invité. La première est la suivante. Dans les cons et quoi? À ce stade, au niveau interne, il relève de la responsabilité de qui peut en fait faire des pressions afin que les différentes recommandations contenues dans les rapports soient exécutées. Et la dernière, est-ce que les rapports étaient fournis en toute impartialité, ou c'est-à-dire les rapports là étaient faits avec beaucoup de vitres, ou soit ça a été fait en toute indépendance? Merci.
Bien, merci. Maître Omar Kavota, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dodé à partir de Lubumbashi?
D'abord, permettez que je commence par saluer Maître Georges Kapiamba, mon confrère et mon collègue dans les organisations des droits humains. Mais s'il faut que je revienne à la question de l'auditeur, c'est de dire qu'en réalité, on a besoin de créer des juridictions. Ça peut être un tribunal international ou de chambres mixtes, hein, qui certains langues appellent tribunal internationalisé du fait qu'il y a des juges étrangers aux côtés des juges nationaux. Ça n'a jamais été un plaisir pour un pays d'éviter dans son état un tribunal pénal international. Parce que pour un État, c'est à la fois l'aveu de l'impuissance de l'impuissance de son appareil judiciaire. Chaque État a besoin que ses instruments nationaux fonctionnent. Mais les conditions obligent parfois à recourir à la création d'un tribunal pénal international, notamment lorsqu'il se réalise que l'appareil judiciaire qui fonctionne n'est pas en mesure, ou le contexte fait que l'État ne soit pas en mesure d'organiser une bonne, d'administrer une bonne justice, ou l'État n'a pas le moyen nécessaire pour organiser de procès en ce sens. Mais il a soulevé une question importante en lien avec le privilège des juridictions ou les immunités qui ont toujours été un frein pour certains procès. Et je crois qu'à ce niveau-là, il a raison d'évoquer cet aspect parce que dans le cas de la RDC, vous savez, le rapport mapping a été élaboré. Nous pouvons vraiment estimer qu'il a été élaboré par des personnalités indépendantes, par des enquêteurs indépendants. Et il a relevé tout ce qui a été observé comme crime entre 1993 et 2003. Et curieusement, plus de 613 graves violations de droits humains qui ont été documentées pouvaient être interprétées comme étant des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et peut-être dans une certaine mesure, pour certains cas, peut-être des crimes de génocide. Mais il n'y a que des juridictions qui soient en mesure d'établir tel ou tel autre crime et de pouvoir poursuivre les responsabilités, de pouvoir poursuivre les auteurs lorsque les responsabilités sont établies.
Maître Omar, ce rapport a documenté plus de 600 crimes graves perpétrés dans notre pays. Pouvez-vous nous rappeler quelques-uns de ces crimes qu'on a eu à déplorer et qui continuent aujourd'hui à faire couler beaucoup d'encre et de salive?
Oui, personnellement, j'ai accompagné certains acteurs et dans la zone où on a enquêté, il y a des cas, par exemple, de viols qui ont été perpétrés par des rebelles. Mais ces viols qui ont été réalisés dans une sorte d'attaque généralisée peuvent être interprétés comme état de crimes de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité dans certains cas. Il y a eu l'enrôlement des enfants, des mineurs dans la guerre. Alors, vous savez que lorsque les enfants sont utilisés dans des groupes armés, sont utilisés pour des fins militaires comme des combattants, cela peut être interprété comme des crimes de guerre dans la mesure où cela viole les droits internationaux humanitaires. Dans d'autres endroits, il y a eu des attaques systématiques contre les centres de santé, contre des églises ou encore contre des biens publics. Donc, tous ces actes, lorsqu'on peut arriver à les interpréter et à réaliser, à les interpréter comme des faits infractionnels à terme des crimes de masse, il est possible que l'on puisse établir des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide lorsque il s'agit des actes qui visent à décimer ou à partir un groupe ethnique ou un groupe religieux ou un groupe racial. Donc, il est possible qu'à la suite de tous ces actes qui ont été perpétrés, on ait vraiment des crimes de masse. Mais maintenant, ces crimes, lorsqu'on les observe, il y a des hauts responsables. Et c'est comme ça que, lorsqu'il faut poursuivre des hauts responsables, naturellement, c'est important d'avoir des juridictions qui ne peuvent pas subir un certain complexe vis-à-vis de ces responsables-là.
Maître Omar, permettez-moi.
Les gens qui estiment qu'il faut que ce soit des juridictions des tribunaux pénales internationales ou des chambres mixtes peuvent avoir raison parce qu'à ce moment-là, ces juridictions ont la garantie de poursuivre toutes ces personnes-là sans pouvoir considérer pour certains leurs privilèges de juridiction ou leurs immunités.
Maître Omar, permettez-moi d'accueillir Mathieu de Béni. Bonjour.
Bonjour, monsieur Daniel.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC?
Oui, merci pour l'opportunité. Alors, je pense que c'est une nécessité pour la RDC de faire sommier afin d'obtenir l'installation du tribunal pénal international. Car il y a aujourd'hui une très grande recrudescence des infractions qui se commettent en RDC qui sont depuis jadis impunies. Et les auteurs de ces faits pénaux continuent toujours à contribuer à l'instabilité du pays. Ici à Béni, c'est grave. Voilà parmi vraiment tant d'autres des raisons qui donnent l'opportunité de la création du tribunal international en RDC. Néanmoins, pour y arriver, moi je pense que il faut, en tout cas, la volonté manifeste du président de la République pour accélérer avec la procédure, parce que parmi les auteurs de ces crimes, c'est rare qu'on ne puisse pas y trouver certains hommes politiques et c'est ce qui continue à ce que cette procédure puisse bloquer jusqu'à maintenant. Donc, nous encourageons les autorités qu'ils puissent s'imprégner de ces rapports. Mapping a fait vraiment de mettre ça en pratique. Sinon, en RDC, il n'y aura pas de la justice. On va toujours assister à ces morts et c'est pourquoi même, on peut voir aujourd'hui, il n'y a pas même de commémoration pour honorer ces morts vraiment, on ne voit pas la volonté des autorités. C'est comme il n'y a rien. Vraiment, nous sommes... On ne sait pas comment le gouvernement est en train de traiter. Donc, nous voulons la diligence de notre gouvernement. Et cela, ça va vraiment interpeller la confiance de ses auteurs.
Merci.
Et c'est avec la
merci.
Terreur de semer la terreur.
D'accord. Merci, Mathieu oui. de Béni. Maître Georges Kapiamba, revenons à la question des Dodé. Qui doit faire pression pour oui. La création de ce tribunal pénal international pour la RDC?
Bon, je viens de vous dire qu'il se dégage de plus en plus qu'il ne soit pas très facile d'obtenir de la communauté internationale, principalement du Conseil de sécurité, la création du tribunal pénal international sur la RDC pour les raisons que j'avais déjà avancées. Généralement, la communauté internationale est devenue par rapport à ce genre de tribunaux à cause de son coût. Mais on a vu que récemment, en République centrafricaine, la communauté internationale a soutenu la création d'une juridiction qu'on appelle Cour spéciale, qui est aussi une juridiction créée par la République centrafricaine en coopération avec les Nations Unies et qui bénéficie même de l'appui de la communauté internationale avec la présence du personnel international. C'est à ce titre-là d'ailleurs que nous avons le procureur de la dite juridiction, c'est notre compatriote, le colonel Mutanzini, c'est lui le procureur. Et donc nous pensons qu'il sera plus facile pour la République démocratique du Congo d'aller sur cette piste-là, d'obtenir, de reprendre les discussions avec les Nations Unies pour un accompagnement vers la mise en place d'une juridiction spécialisée mixte ou chambre spécialisée. Et donc, c'est là pourquoi, c'est parce que nous savons qu'aujourd'hui, notre système judiciaire connaît encore beaucoup de problèmes, problèmes de fonctionnement, problèmes de formation, même s'il est vrai que la justice militaire a développé une expérience assez importante dans les domaines de poursuite des crimes internationaux, mais comme il est interdit de laisser les juridictions militaires poursuivre les personnes impliquées dans des crimes internationaux, il sera souhaitable que, puisqu'il faut la donner à un personnel civil, il faudrait que ça soit une juridiction spécialisée. On peut le faire dans le cadre de notre constitution avec l'appui des Nations Unies.
Voilà. Et puis, qui doit faire pression? Est-ce qu'il revient à la société civile, au gouvernement ou
Bien sûr, oui. Bien sûr. La société civile doit garder son rôle, doit reprendre son plaidoyer, et essayer d'exercer encore des pressions, Je l'avais déjà mentionné, nous avons raté à deux reprises d'obtenir de notre Parlement la création, les votes de la loi portant création des chambres spécialisées mixtes, parce qu'il y a eu absence de volonté politique. Mais vous savez que...
Maître Georges, il semble que la plupart des auteurs de ces crimes se retrouvent dans la politique et des hauts gradés dans l'armée aujourd'hui.
Oui, mais ça nous le savons. Nous savons qu'ils sont nombreux. Et ils vont chercher à s'ériger un obstacle comme ils l'ont fait à deux reprises lorsque Luzolo Bambi a soutenu le premier projet de loi portant création des dites juridictions. Ils se sont organisés, ils se sont coalisés pour empêcher ces projets de prospérer. Avec Mme Matipa, c'était la même chose, même s'il y avait aussi à lui reprocher le fait qu'elle avait travaillé vraiment en vase clos, elle n'avait pas fait participer tous les acteurs en amont de manière à espérer au moins faire avancer ces projets-là. Mais ces gens-là ne peuvent pas quand même continuer à prendre en otage tout un peuple. Nous sommes plus de 80 millions aujourd'hui et je suis certain que c'est 90% des Congolais et Congolais qui souhaitent la création de ces juridictions. Et donc aujourd'hui, je l'ai encore rappelé, le chef de l'État nous a offert une opportunité, lui-même en demandant au gouvernement de démarrer déjà la réflexion sur la possibilité d'amorcer le processus de la justice transitionnelle. Nous savons qu'on ne peut pas faire avancer la cause de la justice transitionnelle sans la possibilité de faire demander des comptes aux plus hauts responsables. Parce que les plus hauts responsables ne devront pas obtenir facilement pardon s'ils ne seraient pas passés d'abord par les juges pénals. Et donc, nous avons là une opportunité à saisir pour dire au président de la République, vous avez lancé une bonne idée, mais voilà, cette idée ne peut pas avancer seule sans la faire accompagner du projet de loi portant création des chambres spécialisées mixtes, lequel projet a été étouffé dans l'œuf il y a quelques années par des parlementaires qui semblaient s'organiser, conséqualiser pour assurer l'impunité à un groupe d'individus dans notre pays.
Bien, merci Maître Georges Kapiamba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée.
Merci à vous, merci à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Maître Marc Avota, je rappelle que vous êtes vice-président du conseil d'administration du Centre d'études pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, à Beni, dans le Grand Nord, dans le Nord Kivu. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci à Radio Okapi et bonne suite.
Okapi Service, à votre service.
Fidèles auditeurs, nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Okapi Service consacrée à la création d'un tribunal pénal international pour la paix. Nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après. Restez avec nous.
Na Congo wekendeli bose senginga na yo toyokana Esengi to sangisa maboko Oto kendeli boso Uzo pa polemika Tokwa kana mai Muluba mukongo muswahili Topesa na maboko po Congo wekendeli boso Congo ya Lumumba Congo ya Bwane Kolele kaki maina miso na goma makobola partout na Congo mobimba tukoma kikomito na Congo kokende wapi ninye kwela biso awalelo tosangani mambondisye tutala nini toko kikosala ona Congo longe songele sika nango ya liboso
Congo ya Lumumba, Congo ya Bwane akenda,
Bwane akenda,
Congo ya Pepe Kale, Congo ya Lumumba,
Congo ya Kasongwe.
Sika watolingie
Oye misabino ba politicien boyokana Congo ya lobi tolingie sala Congo ya prospérité Congo renyo sa se retouffe na ba richesse ya pays Mokili eko bogeze Congo kotika la sima se pona buzoba Avenyo sa tuto sala la tolimisana Kawa total avenir à Congo Ana yone doko kiko sobe Congo Hey Arabutu Nuna moi Miso wa Congo ne Doko sambali susute
Oh
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons aujourd'hui de l'opportunité de création d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo. Eh bien, des voix s'élèvent de plus en plus pour réclamer la création d'un tribunal pénal international pour la RDC. C'est là pour juger les auteurs des crimes perpétrés dans l'est du pays, dans la partie est du pays, ainsi que les cas avérés des violations des droits de l'homme. Cette réclamation intervient à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire du rapport Mapping publié en 2010 par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport documente plus de 600 graves crimes qui se sont produits à l'est du pays entre 1993 et 2003. Pour en savoir plus, nous avons en ligne le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Pasteur Eric Senga, bonjour.
Bonjour mon frère.
Bien, avant d'aller plus loin, je vais vous convier, nous allons suivre la réaction de Maître Luko Musobao. Il est juriste et auteur de plusieurs livres dans les domaines du droit. Il donne son avis par rapport à cette question. Est-il opportun ou pas aujourd'hui de mettre en place un tribunal pénal international pour la RDC? Suivez.
Oui, à propos de la création de tribunal pénal international pour la RDC comme le TPIR pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal spécial pour la Sierra Leone ou le tribunal TPIR, le tribunal spécial pour le Rwanda. Évidemment, après le rapport Mamping, il y avait deux propositions, soit la création des tribunaux spéciaux, des tribunaux pénaux spéciaux pour le Congo ou la création des chambres mixtes spécialisées, comme on les avait appelées, au sein de nos cours d'appel ou de notre justice militaire. Mais on avait préféré la justice de droit commun, donc les cours d'appel. Alors, un projet de loi avait été initié à l'époque par le ministre Luzolo Bambi. Je me rappelle que certains concernés qui étaient dans les institutions, des protagonistes qui étaient au Parlement et au Sénat, qui étaient concernés par ce rapport-là pour avoir été de seigneurs de guerre à l'époque, se sont opposés à ce projet de loi de la manière la plus catégorique dans les institutions. Et ce projet de loi n'avait pas abouti pour les chambres spécialisées, ça veut dire des chambres qui étaient chargées de juger ces crimes-là depuis 2002 jusqu'à l'installation de la CPI, la Cour pénale internationale, et qui ont été commis en RDC, ces crimes internationaux, ces chambres-là pourraient être constituées par des juges congolais, d'autres juges internationaux, avec éventuellement un procureur spécialisé venant d'un pays étranger, avec l'appui de la communauté internationale pour avoir une compétence universelle, ça veut dire, n'est-ce pas, de juger tous les criminels qui sont disséminés dans tous les pays voisins. Alors cela a échoué et depuis on a torpillé jusqu'à ce que ça n'ait jamais lié, parce que ça concerne des personnes qui sont dans nos institutions et ça concerne également des gens qui sont dans les pays voisins. Alors donc, il faut que... En fait, c'est ce qui consacre le mépris du peuple congolais, qui est le peuple congolais, nous sommes que des insectes et des fourmis. On peut en tuer 10 millions, on peut en violer des milliards et la communauté internationale ne réagit pas. Mais au moins le rapport Mamping avait déjà posé les bases et c'était la communauté internationale qui s'était plus ou moins réveillée et a établi les responsabilités par rapport au pillage, par rapport au massacre, par rapport au viol. Et c'est pourquoi vous voyez que dans la région, il y a un cas qui est toujours énervé, qui tressaillit dans ses entrailles chaque fois qu'on parle des rapports Mapping. Et c'est pourquoi vous voyez la nervosité chaque fois que Mukwege rappelle qu'il faut des tribunaux pénaux, un tribunal pénal spécialisé pour que le Congo soit indemnisé, que les victimes soient reconnues comme victimes et obtiennent d'une manière ou d'une autre réparation. Parce que c'est cette impunité-là, cette assurance sociale et d'impunité des bourreaux, c'est ainsi qu'ils ont multiplié les rébellions, ils ont multiplié les massacres et personne ne peut les arrêter parce qu'ils ne sont jamais été punis. Et donc, ils n'ont jamais été punis depuis le début jusqu'à maintenant à cause de l'impunité. Et ils sont les seuls qui sont ainsi garantis d'impunité. Alors, vous dites comment cela doit se faire? Oui. Bon, si ça s'est fait par nous-mêmes, donc la RDC elle-même, qui crée un tribunal pénal spécial sur la RDC, l'exemple de la non-extradition de Laurent Kunda et de Sultani Makenga prouve que si nous le faisons nous-mêmes, nous n'aurons personne de ceux qui sont cités dans le rapport Mapinga GG. Nous n'aurons personne. Il faut donc que ça soit fait par la communauté internationale ou bien avec l'appui de la communauté internationale. Et là donc, nous voulons nous appuyer déjà sur l'Union européenne qui a prouvé, n'est-ce pas, son soutien là-dessus, sur les États-Unis, Canada, Londres, pour nous aider à créer cette institution-là, parce que ils l'ont fait pour la Sierra Leone, ils l'ont fait pour le Rwanda, ils l'ont fait pour la Yougoslavie. C'est important qu'ils soient impliqués pour nous donner la possibilité, par un tribunal pénal international, d'avoir compétence sur tous les pays voisins qui étaient concernés. Comme on a condamné l'Ouganda, il reste à condamner tous les autres voisins qui étaient condamnés, qui étaient impliqués dans ces massacres à Kisangani, parce que ça concerne Kisangani, l'Ituri, le Kivu, Nord-Sud-Est, Nord-Sud, Maniema et le Nord-Katanga, tous ces crimes-là qui ont eu lieu, une partie même du Kasaï. Et donc, d'autres massacres, si on peut étendre jusqu'à ce qui s'est passé au Bas-Congo et à Kinshasa, eh bien, ce tribunal-là aura donc la possibilité d'impliquer, d'obtenir l'extradition de toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont été impliquées dans ces atrocités-là, des viols, des pillages, des massacres qui sont cités par le rapport Mapping. Il faut donc que ça soit créé par une résolution des Nations Unies pour que ça, parce que là, non seulement ça va obtenir les moyens des Nations, ça va s'appuyer sur les moyens des Nations Unies, les moyens matériels, humains, documentaires, parce que la plupart des rapports qui dénoncent les atrocités en RDC sont des rapports des Nations Unies. La plupart des rapports, même si notre justice militaire a fait aussi des efforts et a aussi des rapports, et à lancer des mandats d'arrêt internationaux, on pourrait fusionner toutes ces enquêtes-là et les remettre à un tribunal pénal spécialisé. Je crois que la RDC est donc le parapauvre de toute la communauté internationale d'arriver à autant de millions de morts et qu'il n'y ait aucune justice. Il faut que ça s'arrête. Et c'est ainsi que c'est devenu la revendication de toute la population congolaise. Il faut que ça s'arrête, ce mépris-là d'un peuple meurtri. Et à la limite, maintenant, toute la communauté internationale se demande pourquoi il y a tant de haine en Afrique centrale. Mais je crois qu'entre autres réponses, c'est cette injustice absolument inacceptable. C'est au-delà des deux poids des mesures qu'on considère que tout un peuple ne mérite pas le soutien de la communauté internationale. Alors qu'on a une mission, la plus grande mission des Nations Unies dans le monde. Mais en ce qui concerne la justice, on s'en fout éperdument. Les massacres se poursuivent à Beni, en Ituri, au Kivu en général, au Nord Katanga, parce que tout simplement, comme les Gédéo Tchungu Mutangala et consorts, ils sont garantis par l'impunité. Les massacres se poursuivent sur la population congolaise parce qu'il n'y a pas de justice. Donc c'est seule la justice pénale internationale pourra donner le signal que c'est fini, vous faites ceci, vous serez immédiatement capturé.
Okapi Service, pour participer à l'émission, 081 890 63 94, par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiookapi.net.
Bien, merci Maître Louko Moussoubao, juriste, merci pour tout, pour votre intervention dans cette émission par rapport à l'opportunité de création d'un tribunal pénal international pour la RDC. Alors nous avons en ligne Pasteur Eric Senga, qui est porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Pasteur, vous avez suivi l'avis de ce juriste. Est-ce que vous avez un avis ou quelque chose, une réaction par rapport à cela?
Je salue d'abord Maître Moussoubaou, je pense que je viens de prononcer son nom. Pour cette lecture, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. J'aimerais peut-être un ajout de ce que l'Église du Christ au Congo fait, d'ailleurs qui va dans le même sens que l'option soulevée par Maître. Ce qu'il faut considérer la question à trois niveaux. Au premier niveau, c'est d'abord une question qui devrait ou qui doit se régler à l'interne, c'est-à-dire comme république, comme nation, nous devons avoir le courage de nous regarder dans les yeux, Et c'est cela même la démarche de l'Église du Christ au Congo, raison pour laquelle son président, son excellence révérend Dr Bokundoa, en a appelé depuis l'année passée aux discussions entre acteurs politiques. Dans son agenda, qui figure jusqu'à ce jour, il est clairement indiqué la nécessité de discuter sur des questions fondamentales. Donc pour nous, cette question devrait d'abord être étudiée ici à l'interne parce qu'elle est une question sociologique. Deuxième niveau, c'est le niveau sous-régional. Nous devons discuter sincèrement avec nos voisins. Tous ceux qui peuvent, nous ne sommes pas trop dans l'esprit de dire qui a été cité ou pas cité. Nous attendons la juridiction compétente, comme a dit Maître, pour établir la responsabilité, qualifier les faits et ainsi arriver à des sanctions s'il est échoué. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on ait une discussion au niveau sous-régional avec tous nos voisins. Et puis le troisième niveau, c'est au niveau international ou bien au niveau des organisations internationales telles que les Nations Unies par les conseils de sécurité. Donc il est tout à fait normal parce que aujourd'hui, d'aucun ne peut ignorer, avec ou sans les rapports mapping, d'aucun ne peut ignorer qu'il y a eu des graves violations et qu'il continue à avoir des violations jusqu'à ce jour sur le sol congolais. Donc on ne doit pas trop créer les mythes autour du rapport mapping. Pour ceux qui pensent que le rapport est vrai ou ceux qui pensent que le rapport est douteux, là n'est pas la question fondamentale. Mais la question fondamentale reste que l'histoire retient qu'il y a beaucoup de graves violations des droits de l'homme sur le sol congolais. Et si mapping a le mérite de nous aider à avoir un point de référence, un point de départ, oui, rationnellement accepté, sur la base duquel nous pouvons commencer les discussions pour aboutir à la justice transitionnelle, notamment par un tribunal spécialisé d'un côté, mais aussi une commission vérité et réconciliation de l'autre, nous pensons comme Église du Christ au Congo qu'il faille alors considérer mapping comme le point de départ de toute réflexion qui rentre dans le terme des droits humains et libertés fondamentales du citoyen.
Pasteur Eric Senga, aujourd'hui l'Église du Christ au Congo est engagée dans la vulgarisation de ce rapport mapping. Quelle est la motivation?
La motivation est double. D'un côté, ce qu'il faut arrêter de considérer que ce qui est déploré et coulé dans les rapports mapping serait une question individuelle portée par Dr Mukwege, par exemple, pour ne pas les citer, ou par quelques officines. L'ECC tient à ce que la nation congolaise s'engage dans une sorte d'appropriation nationale sur cette question. Elle ne doit pas diviser l'opinion, d'autant plus qu'elle appartient à l'histoire de notre pays. Soit nous mentons, on n'a jamais perdu 10 millions de personnes, soit c'est vrai, mais nous sommes tous irresponsables. Mais l'ECC prend la mesure de la chose pour dire, nous devons sensibiliser, un, pour que la nation s'approprie de ces combats. Des deux, pour qu'elle soit enseignée, cette notion-là. Les rapports mapping sera résumé, à notre sens, pour qu'ils rentrent même dans les systèmes éducatifs de notre pays. On nous parle des révolutions françaises, on nous parle des révolutions américaines. On apprend l'histoire des autres pays, mais nous oublions que nous, dans notre histoire contemporaine, il s'est passé des graves violations qu'on ne peut retrouver dans cette génération qu'en lisant l'histoire du Congo. C'est tout à fait normal que cela rentre dans notre système éducatif, que les enfants, les universitaires l'apprennent. Des deux, au-delà de la sensibilisation formelle sur le plan éducatif, nous allons résumer les rapports et les traduire en des langues nationales. Quel est notre objectif? Ce n'est pas de susciter la haine, l'animosité ou l'esprit de vengeance. Non, c'est de montrer la nécessité de la vie, éviter la banalité du mal et inciter le peuple à comprendre les biens fondés du vivre ensemble. Mais de l'autre versant, c'est que nous voulons, au-delà de la sensibilisation, aller dans des plaidoyers de haut niveau, comme je l'ai dit, à trois niveaux, au niveau national, que toutes les institutions, nous saluons les chefs de l'État, les parlements, l'Assemblée nationale, les gouvernements qui étaient à notre activité et à donner de la voix. Et donc, si toutes les institutions, de ce point de vue, s'unissaient comme un seul homme, nonobstant les guerres politiciennes ou le point de vue divergent, mais comme une question qui dépend de l'existence de notre nation, une question existentielle, nous nous liguons comme un seul homme, alors nous ferons une voix forte au niveau de la communauté internationale. Et le plaidoyer ira jusqu'au niveau de la sous-région, l'Union africaine sera saisie, et jusqu'au Conseil de sécurité. Voilà ce que nous avons prévu comme Église du Christ au Congo. Donc il n'y a pas que la sensibilisation, il y a la sensibilisation l'action menée vers la population, mais il y a aussi les plaidoyers, l'action menée vers les instances décisionnelles du pays.
Bien, pasteur Eric Senga, nous allons accueillir deux auditeurs, maître Martin de Kananga et Tambo Ekabasele de Beni. On commence avec maître Martin de Kananga. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
On vous écoute maître Martin.
Ok, j'ai posé d'abord mon commentaire sous forme d'une suggestion. Et vous voyez, dans notre pays, nous avons commis plusieurs crimes de mort depuis 1993 jusqu'à maintenant. Et les crimes continuent d'être là. Nous voyons aussi notre prix Nobel de la paix qui est menacé jusqu'à maintenant. Et on ne voit pas de contrôles qui sont menés à propos de ceux-là qui lui menacent. Mais il est toujours sous menace de mort et des mauvaises intentions auprès des gens. Alors, suite à cela, nous demandons à notre chef, au chef de l'État de mettre sur pied ou bien mettre en place le tribunal international. Peut-être on peut poursuivre ceux-là qui ont commis des crimes dans des années antérieures, même aujourd'hui. Et ceux-là qui continuent à faire des crimes contre les autres. Parce que nous voyons la justice dans notre pays, si elle craint les autres pour s'attaquer aux autres. On ne sait pas comment la justice dans notre pays fonctionne. Suite à cela, le tribunal international peut nous aider à poursuivre ceux-là qui ont commis des crimes de mort contre nos gens antérieurs.
Merci, merci maître Martin de Kananga. Tambo Ekabasele, vous êtes à Beni, bonjour.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'opportunité de création d'un tribunal pénal international pour la RDC?
Oui, monsieur le journaliste, nous attendons à ce que ce tribunal soit installé en République démocratique du Congo. C'est très important et c'est le souhait de tout Congolais. Parce que nous savons que depuis 1994, ceux qui commettent là ne sont pas poursuivis conformément à leurs crimes. Maintenant, nous voulons qu'on puisse installer ces tribunaux-là. Et la suggestion que j'ai laissée sur la page Facebook...
On l'a perdu, mais on a retenu quand même sa pensée. Donc, il dit que tout le monde est d'accord pour que ce tribunal pénal international pour la RDC soit mis en place. Pasteur Eric Senga, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces réactions des auditeurs?
Ces réactions prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, cette question relève de la volonté collective. Et c'est ce qui est vraiment à encourager. Je pense, comme le dit Raymond Aron, il est toujours important de de maximiser l'expérience de son passé en vue de réinventer son avenir. Le peuple congolais a atteint une certaine maturité aujourd'hui où certaines bavures ne peuvent plus passer inaperçues au niveau de la société. Donc nous ne pouvons que nous encourager comme Église du Christ au Congo, mais en même temps comme citoyen congolais, pour dire qu'aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous pouvons faire comme plaidoyer, tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il existe un rapport mapping qui était du reste ignoré par les grands publics. Et nous bénissons le Seigneur parce que grâce à l'activité aussi menée par les CC, beaucoup ont découvert ce que c'est le rapport mapping. Donc nous encourageons cette dynamique sociétale et nous prions vraiment que les gouvernements, les institutions de la République de ne plus baisser le bras, parce qu'aujourd'hui nous avons entendu le chef de l'État dire la même chose sur la justice transitionnelle. Nous avons suivi Mme Mabunda lors de son speech à la rentrée parlementaire de la session de septembre en cours, et dire un mot sur les prix Nobel et insister sur les droits des humains. Donc s'il y a déjà cette dynamique au niveau institutionnel et que la même dynamique est relayée au niveau de la population, nous pensons fermement, comme Église du Christ au Congo, que la voix de l'Église et la voix de la nation va se faire entendre dans les échelles décisionnelles du monde.
Alors, pasteur Eric, si par exemple les auteurs, j'imagine que les auteurs de ces crimes, certains se retrouvent dans les institutions du pays, est-ce qu'ils vont pas constituer un obstacle à sa vulgarisation ou à la mise en place de ces tribunaux?
C'est là le mérite du paradigme de la justice conditionnelle à laquelle nous souscrivons, nous, les Christos Congo. Vous savez, mon cher ami, l'histoire de tout un pays est appelée à s'assumer. Nous devons accepter notre histoire. C'est notre histoire. Voilà pourquoi l'orientation que donne l'Église du Christ au Congo sur cette question doit être prudentielle. Il ne faut pas aller dans la précipitation, dans les agitations ou dans le sens des règlements des comptes. C'est vrai, il y a des choses à déplorer, mais le plus important,
c'est la réparation à y apporter. Il y a des choses qui vont nécessiter, par exemple, des pardons publics. Qui peut ignorer aujourd'hui ce que la Belgique nous a fait? Qui peut ignorer aujourd'hui que la colonisation nous a amené tous les déboires du monde? Nous, aujourd'hui, nous vivons avec la Belgique. Le plus important est de réparer, surtout nous comme Église, les travaux que nous faisons quand nous parlons de la repentance. La repentance, c'est la restauration. Que quelqu'un prenne conscience des faits, qu'il prenne la décision de le renoncer et qu'il se décide de ne plus le refaire. Pourquoi? C'est aussi pour prévenir. Imaginez-vous si ces débats avaient eu lieu depuis 2003, de manière sereine. On n'aurait peut-être pas eu des graves violations jusqu'aujourd'hui, comme ce qui se passe à Beni, Boutembou, Ituri et partout. C'est justement parce qu'on a omis la dimension préventive. Les fautes doivent être corrigées dans une société. Donc, pour les CC, c'est une question de sursaut patriotique. C'est vrai, c'est tout à fait normal. J'insiste sur le fait, la justice transitionnelle donne la possibilité de la création d'une commission vérité et réconciliation. C'est vrai que la réconciliation ne remplacera pas l'exigence judiciaire. Ce n'est pas que la réconciliation tolérera le bourreau au mépris de la victime, mais la réconciliation nous permet quand même de nous arrêter quelque part, d'être conscients de ce qui a été fait. Si nous estimons comme nation qu'on peut pardonner à ceux qui sont coupables, c'est une option que nous allons lever comme nation. Si nous pensons que la justice doit sanctionner, c'est une option que nous allons lever. Mais du moins, que nous soyons autour d'une table, que le mécanisme soit enclenché, laissons le tribunal spécial être établi, laissons également la commission vérité et réconciliation être établie. J'insiste sur l'expérience, comme vous avez dit vous-même, de l'Afrique du Sud. On a vu le travail mené par son Excellence Desmond Tutu.
Pasteur Eric, faut-il installer les deux au même moment? On installe le tribunal pénal et la commission vérité-réconciliation simultanément?
Ce sont toutes les résolutions incluses dans les rapports mapping. La question est pertinente, mais dire l'une ou l'autre, ou l'une après l'autre, ou l'une à la fois l'autre, ce sont des options qu'on peut lever. Mais la vérité est que les deux doivent figurer lorsque nous souscrivons pour la justice transitionnelle. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas que la justice devienne un instrument de règlement des comptes pour fragiliser l'unité nationale et déstabiliser même l'architecture institutionnelle. Au même moment, il ne faut pas que la vérité et réconciliation deviennent l'instrument de tolérance et d'excuses irrationnelles. Donc, il y a toujours lieu de trouver une commune mesure, mais sinon, les deux doivent être opérationnels. Puisqu'il y a des questions qui relèvent de la compétence juridictionnelle, et il y a des questions qui relèvent de la compétence sociologique, pastorale, si vous voulez bien, des réconciliations et de la paix.
Bien, Freddy Ngalamouloumé nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Freddy?
Oui, à mon humble avis, monsieur le journaliste, je voudrais tout juste ajouter quelque chose à tout ce que mes précédents viennent à peine de dire. J'aimerais tout juste dire comme ça. Avoir un tribunal pénal international en RDC, c'est mieux. Mais nous demandons que les autorités ne soient plus manipulées par des hommes politiques afin que cela soit politisé. Et nous demandons aussi que le tribunal pour crime au Congo soit un peu organisé par nos autorités morales et non par une nation quelconque.
Bien, merci. Pasteur Eric Senga, vous avez la parole.
Oui, donc c'est ce que je disais, il est important pour nous comme Congolais de considérer. D'abord, en fait, le tout dépend de l'approche que nous adoptons et de la finalité que nous visons. Le CC insiste, si vous vous rappelez le 4 janvier de cette année, le président de l'ECC l'a dit clairement, que personne ne peut fermer l'œil sur ce que lui-même a eu le courage de qualifier du génocide congolais. Et dans le même registre, le président de l'ECC, le révérend docteur Bukundoa, a parlé de la menace sur la balkanisation. C'est vrai qu'il n'a pas été peut-être compris, et il y a eu des agitations de part et d'autre, mais l'ECC reste constante sur ses angles et sur ses positions. Donc nous pensons, comme Église du Christ au Congo, qu'à ces jours, la commission justice paix sur l'égard de la création de l'Église du Christ au Congo, dont d'ailleurs j'ai la charge de piloter, est très avancée dans ses travaux de sensibilisation. Nous ne devons pas faire fi de notre histoire, nous devons l'accepter. Ce n'est que de cette manière, comme le dit Raymond Aron, comme le dit Georges Simmel, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent des conflits sociaux, qui apportent justement
la question sous cet angle-là. On ne peut pas se leurrer. Le Congo est victime des graves violations des droits humains. Ceux qui tombent sous le coup de ces violations sont nos femmes, nos mères, nos pères, nos enfants. Et on n'a pas une autre manière de nous reconnaître comme une nation si nous ne sommes pas en mesure de défendre la vie humaine, si nous encourageons la banalité du mal. Nous nous posons la question comme SEC. Est-ce que pour venir exploiter au Congo, multinationale soit-elle, il faut forcément que les vies humaines soient sacrifiées? Est-ce que pour vivre entre Congo et les Rwandais, il faut simplement être dans l'animosité? Nous disons non. Le plus important, mon cher frère, au-delà de ce que nous disons du mapping, c'est la restauration de la paix et la stabilité dans le Grand Lac. Nous avons tous besoin que cette sous-région soit stabilisée et ait la paix. Il faut que les Rwandais viennent au Congo facilement. Il faut que les Congolais traversent facilement. Il faut qu'on arrête à se regarder comme des publics ennemis. Mais nous ne pouvons pas arriver à cela si nous ne corrigeons pas. Il y a un grand travail à faire. C'est le travail de la guérison des mémoires. Vous savez, même quand le gouvernement est en train de parler de l'indemnisation des victimes, lorsqu'il y a un décret, un projet de décret qui est en cours, l'ECC dit, le problème des mappings ne s'arrête pas seulement au niveau de l'indemnisation pécuniaire. Le plus important, c'est la réparation des dommages. Et lorsqu'on parle de réparation, il n'y a pas que la dimension matérielle, il y a la dimension de guérison des mémoires. Imaginez-vous un enfant issu du viol qui n'a vécu que ces choses. Aujourd'hui, il peut avoir 20 ans. Mais c'est des koulounas que nous préparons. C'est toute une génération que nous préparons, ratée parce que peut-être ils n'ont pas étudié, des enfants qui n'ont pas eu la grâce d'être scolarisés, qui n'ont pas la grâce d'aller à l'université, des gens jusqu'aujourd'hui qui voient leur maman abattue, violée, sous leur regard. Ils voient des choses horribles, atroces. Mais comment pouvons-nous parler de la nation lorsque une partie de nous est en train de souffrir? Donc voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, la sensibilisation de l'ECC veut à ce que celui qui est à l'ouest du Congo central, du Grand Bandundu, qu'il ait la même douleur dans sa chair physique lorsqu'il apprend ce qui se passe de l'autre côté. Mapping, nous insistons, constitue pour nous un rapport crédible, rigoureux et fait des mains des maîtres qui peut nous aider à avoir un point de départ. L'essentiel pour nous n'est pas seulement s'attarder sur qui est cité et qui ne l'est pas, oui, autour du rapport mapping. L'essentiel, c'est que le cycle de la banalité du mal s'arrête au Congo. Nous sommes au 21e siècle, on ne peut pas accepter de tomber au seuil des civilisations humaines où la vie humaine n'a plus d'importance. On se réveille un beau matin, on vous dit, 1000 personnes tuées, 200 égorgés, 50 violés, et c'est sous le regard de la communauté internationale, c'est sous le regard de ceci ou de cela, mais c'est inadmissible, mon cher ami. On n'est plus à cette génération d'accepter ces choses. Le Congo nous appartient, nous n'avons pas une autre nation. La nation appartient et aux morts, aux vivants et à ceux qui viendront. Donc si nous voulons nous respecter comme nation, une seule mort injustement opérée sur notre sol est une tragédie et nous devons tous laisser ce vœu qu'aujourd'hui, qu'on arrête des marches parce qu'un parti politique est mécontent, parce que les élections ont fait ceci, parce qu'il y a vérité des urnes. L'heure est arrivée qu'on voie des hommes, des femmes s'élever, pas seulement pour marcher, mais pour revendiquer le respect des droits humains.
Oui, pasteur Eric, il y a eu dernièrement des marches à travers le pays pour réclamer l'application de ce rapport. Certaines marches ont été dispersées dans certaines provinces du pays.
Justement, vous avez raison, c'est là où nous interpellons notre partenaire, l'État congolais, notamment le pouvoir exécutif, à comprendre qu'on ne peut pas dire la chose de son contraire. Nous parlons comme nation. Il faut que chacun se dépasse de ses identités prioritaires. Nous devons construire les mythes fondateurs. Et les mythes fondateurs ne peuvent se construire que sur la base des idéaux qui nous identifient en tant que peuple dans l'historiographie des humains. Nous sommes parfois écœurés de voir notre gouvernement qu'au même moment où les gens revendiquent, on vous dit, des marches, mais on vient réprimander violemment du reste la même population qui réclame au profit de notre État. Ça doit s'arrêter. Et donc nous encourageons par ailleurs le peuple congolais qui se réveille dans cette dynamique de marché. Mais bien encore, nous voulons dire que les marchés ne sont pas le seul moyen de revendication. Nous pouvons marcher ce qui est déjà bien, nous pouvons nous soulever ce qui est encore mieux, mais au-delà de tout, nous voulons construire un cerveau collectif. Il est temps maintenant que les penseurs, les historiens, les philosophes, les théologiens, les sociologues réfléchissent sur des vrais paradigmes qui pourront aider cette nation à se réinventer. Il faut qu'on arrête à former des intellectuels. Quelqu'un qui va faire les droits à l'université, droit public international par exemple, mais il ne connaît rien du rapport MAPIC. Il ne sait même pas qu'il y a des violations. C'est quand même ridicule qu'on forme des politologues, qu'on forme des sociologues. Les travaux de fin d'études ne portent que sur des questions d'entreprise, sur des questions de politique, les élections, mais personne ne veut penser, je ne dis pas personne, peut-être c'est exagéré, mais beaucoup ne pensent pas, par exemple, sur des questions existentielles. Et donc, c'est cela notre appel comme Église de Christ au Congo, d'interpeller même nos universités. Nous avons parlé avec les autorités de l'UPC, qui est notre université parmi les prestigieuses du pays.
Oui, pasteur Eric, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir deux auditeurs. Nous avons John Luessa de Demba et Jeffano de Cabinda. John Luessa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
Quelle est votre préoccupation, John?
Oui, je suis vraiment consterné par le sujet du fait que nous entendons depuis des milliers d'années parler donc des massacres, donc des tortures à l'est de notre pays. Cela nous offusque beaucoup plus car ce pays-ci nous appartient à tous. Donc je me rappelle donc des propos de notre intervenant qui vient de nous quitter à tout à l'heure. Donc nous voulons que la paix revienne vraiment dans notre pays. Nous voulons que l'État de notre pays puisse vraiment donc s'impliquer à mettre la paix donc dans toute l'étendue de notre État. À cela, nous avons donc entendu donc depuis quelques années que donc on va installer la démocratie dans notre pays, mais jusque là, nous ne voyons rien. Nous entendons toujours parler des massacres, nous entendons toujours parler des guerres. Pourquoi tout cela? Puisque, et comme je l'ai souligné même sur mon intervention sur votre page Facebook, je vois que donc ce sont nos autorités là qui veulent que la paix ne revienne pas à notre sol. Et à cela, je vais donc intervenir en disant que il faut que le gouvernement congolais puisse s'impliquer. Nous voulons la paix. Et nos frères là qui subissent donc des balles perdues à l'est de notre pays puissent vraiment se sentir à l'aise puisque ce pays-ci nous appartient donc à tous. Et à cela, dans les rapports de mapping, donc je veux juste donc signifier que ici au Kasaï, là-bas à Chimbulu, on avait vraiment assassiné des experts des Nations Unies. C'était à cause de la paix. Mais cette paix-là reste où? C'est ça maintenant la question que nous nous posons tous.
D'accord.
Nous voulons que la paix revienne dans notre sol. Et à cela, les Congolais veulent avoir donc une paix durable. Ce n'est pas une paix et donc éphémère. Nous voulons une paix durable.
D'accord. Merci.
Cela, ça suffit.
Merci John Luessa. Jeffarno de Cabinda, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la création d'un tribunal pénal international pour la RDC?
Oui, je sais que cette opportunité a son droit d'être, puisque si en RDC, du jour au jour, on compte toujours des morts, après nos hommes politiques considèrent de faire des crimes comme leur point mobile qui les aide à accéder au pouvoir. Alors s'il paraît que ce tribunal vient ici au Congo, et ramasse tous ceux qui sont les auteurs de ces crimes pour qu'ils répondent à leurs actes. Je sais que beaucoup qui ont les mêmes idées ou bien la mauvaise volonté de répéter les mêmes crimes que les autres ont déjà fait seront découragés de leurs mauvaises idées pour que les gens aussi se corrigent. Par exemple, ceux qui se passent à l'est, on ne compte pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle de dire que il y a eu 2 morts, 10 morts, des choses comme ça. Donc, nos frères de l'Est se sont considérés comme des boucheries, comme si leur vie ne sont pas sacrées. Or, même la Bible dit que la vie d'un humain est sacrée. Alors, quand on considère comme ça, moi, je pense que ce tribunal-là doit toujours avoir lieu pour sanctionner et punir tous les auteurs de ce crime-là, pour décourager les autres qui ont la même envie là de faire de telles choses aux humains, puisque on considère les sangs congolais comme un sang qui n'a pas de valeur. Pas
merci, merci Jeff Arnaud. Voilà, tout le monde crie et réclame la justice. Mais pasteur Eric Senga, il y a une question que je me pose. Pourquoi avoir attendu 10 ans après pour se réveiller et commencer maintenant à sensibiliser par rapport à ce rapport mapping?
C'est vrai, d'un côté, le contexte était très tendu. Il faut l'avouer, le contexte politique et régional était très tendu. Ça, il faut l'avouer. Mais de l'autre côté, nous disons, nous comme des religieux, hein, Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tuer, il y a un temps également pour se réveiller. Donc nous prenons ceci comme ce qu'on appelle en grec les kairos, le temps opportun. Donc même dans l'histoire de l'humanité, la Révolution française est partie d'un temps, d'une circonstance, américaine également. Donc tout part des tournants décisifs qui s'imposent dans le temps et dans l'histoire d'un peuple. Nous devons considérer ce moment comme un temps du tournant décisif. C'est là où je continue à louer au nom de l'Église de Christ au Congo. Et c'est la volonté collective. Je suis avec vous, les réactions de vos auditeurs. Mmh. Vous comprenez qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question de ceux qui sont à l'Est. Ce n'est pas une question des vengeances. Ce n'est pas une question politicienne pour dire c'est parce que tel au pouvoir. Nous ne donnons. C'est une question qui est transcendantale, existentielle. Donc aujourd'hui, nous considérons cela comme les débuts. Même les Israéliens, les Hébreux en Égypte, ils ont crié, ils ont pleuré. La Bible dit Dieu ne les entendait pas. Mais à un moment, il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri du peuple, j'ai vu la souffrance. Donc la souffrance a tellement duré, et considérons ceci comme un temps nouveau, d'un véritable tournant décisif de l'histoire de notre pays.
Alors, pasteur Eric, dites-nous comment comptez-vous mener cette campagne de vulgarisation et ces plaidoyers. Concrètement, comment ça va se passer?
Concrètement, c'est un projet coulé pour une durée de 3 ans, qui sera mené en collaboration avec les confessions religieuses, ainsi que les organisations de la société civile et les mouvements citoyens. Donc déjà là, vous comprenez que ce n'est pas une initiative exclusivement SCC, mais c'est une initiative de l'Église du Christ au Congo qui en a les leads, mais en collaboration avec les autres. Au niveau de l'ECC, c'est la Commission Justice Paix et Sécurité de la Création, dans son programme Bonne Gouvernance et Paix et Réconciliation, parce qu'il y a 2 programmes qui vont dans le même sens, droits humains et liberté fondamentale des citoyens et paix et réconciliation. Ce sont ces 2 programmes qui vont piloter la sensibilisation. Deuxième niveau, c'est au niveau opérationnel. Dans l'opérationnalité, nous allons, pour la sensibilisation, avoir 3 axes. La coopération avec les universités, les écoles, tant publiques que confessionnelles, donc le privé. Nous-mêmes, nous avons un réseau important des écoles et des universités, les catholiques, l'armée du Sali et les autres. Deuxième niveau, aspect, c'est la sensibilisation classique, où nous allons traduire les rapports résumés en des langues nationales vers les mouvements citoyens, la société civile de manière... Même une catéchèse qui sera organisée. Et le troisième niveau de la sensibilisation, c'est de voir comment nous pouvons organiser des conférences publiques. Des conférences publiques, questions, des discussions, en vue de faire participer les citoyens à ces grands débats autour de la nécessité. Un peu comme vous le faites. Et j'espère bien que Radio Capi nous accompagnera. Mais pour le plaidoyer, nous aurons plutôt l'axe orienté vers les décideurs. Au niveau national, nous travaillons avec les institutions du pays qui déjà a montré les couleurs. Donc j'ai parlé du président de la République, de l'Assemblée nationale et les gouvernements qui étaient présents dans notre activité. Donc nous allons travailler pour dégager un consensus autour de la compréhension du rapport mapping. C'est vrai, il reste une question qui divise encore les opinions au niveau national. Donc nous devons d'abord construire une dynamique nationale, un leadership national pour mener un plaidoyer de haut niveau à la sous-région des Grands Lacs et puis au niveau du Conseil de sécurité. Notre vœu,
et que les églises, notamment l'église de Christ au Congo, ou alors avec d'autres, prennent les leads de l'initiative, surtout de la commission Vérité et Réconciliation. Pourquoi ? Parce que la question est quand même sensible, il faut l'avouer, et elle ne doit pas diviser la nation, elle ne doit pas plus créer le dégât que de trouver des solutions. Donc nous sommes dans la perspective des solutions et non de créer des dégâts. C'est comme ça que tant nous souhaitons avoir le tribunal spécialisé pour la RDC, mais qu'on ait aussi cette commission Vérité et Réconciliation qui jouera un rôle crucial dans la réparation, dans l'accompagnement des guérisons des mémoires et aussi dans l'accompagnement de la repentance publique de ceux qui vont se reconnaître coupables dans ces exactions.
Bien, pour terminer, Pasteur Eric, on dit souvent que la justice élève une nation. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire là où il y a justice, il y a respect, et là où il y a respect, il y a harmonie, et là où il y a harmonie, il y a prospérité. Donc une nation ne peut pas prospérer, avoir la possibilité d'offrir un vivre ensemble paisible à ses citoyens, une harmonie et une cohésion nationale s'il n'y a pas de justice. Sinon, nous tomberons dans ce que présente Thomas Hobbes, le loup contre loup, l'homme devient le loup pour loup, donc l'état de la nature. Donc il faut quitter l'état de la nature pour aller à une société civilisée. Et la civilisation d'une société passe par la médiation de la justice. La justice entendue comme ordonnancement de l'ordre judiciaire du pays, mais aussi comme architecture institutionnelle d'un pays où les droits fondamentaux des citoyens sont respectés d'un côté et la légitimité des institutions est assurée de l'autre.
Pasteur Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, merci.
C'est à moi de vous remercier et merci à Radio Okapi.
Okapi Service, à votre service.
Quelle est l'opportunité de création aujourd'hui d'un tribunal pénal international pour la RDC? On en parle à présent avec Maître Jean-Claude Katende, il est président de la ZADO, Association africaine des défenses des droits de l'homme. Maître Jean-Claude Katende, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est aujourd'hui opportun, plus qu'opportun, de créer et de mettre en place ces tribunaux pénaux internationaux pour la RDC?
Je pense que vous avez trouvé bien les mots. Il est plus qu'important et voire même urgent aujourd'hui que ce tribunal international soit mis en place pour plusieurs raisons. Si nous mettons cette demande ou ce souhait en rapport avec la question qui est débattue aujourd'hui du rapport Mapping, nous pensons que 10 ans après ce rapport et plusieurs années après la commission des incidents dont il est question, il est quand même urgent que les victimes soient reconnues, que la justice soit dite et que les bourreaux, quels que soient les niveaux où ils se cachent, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans la masse, que ce soit ailleurs, puissent quand même rendre des comptes pour ce qui est arrivé.
Bien. Alors, pourquoi avoir attendu 10 ans après, maître, pour relancer les débats sur cette question?
Je pense qu'il y a eu plusieurs pesanteurs qui ont fait que ce rapport n'était pas inscrit à l'ordre du jour de l'agenda au niveau national comme au niveau international. Et vous savez que quand vous lisez très bien les incidents qui sont repris dans le rapport Mapping, il y a lieu de se rendre compte que les dirigeants politiques de l'époque, eux-mêmes qui étaient impliqués dans la commission de certains des faits qui sont mentionnés, ne pouvaient pas activer le rapport Mapping pour que la justice soit faite. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut situer le premier blocage. Et il faut souligner aussi le fait qu'il n'y a pas eu de plaidoyer partant de la République démocratique du Congo, du président de la République, du premier ministre et des membres du gouvernement pour que les recommandations de ce rapport soient mises en œuvre. Il n'y en a pas eu. Donc, le gouvernement du président Kabila, à l'époque, avait accepté que les enquêteurs viennent faire leurs enquêtes pour produire des rapports Mapping, et ensuite il n'a pas donné des suites aux recommandations qui ont été faites. Il faut aussi dire qu'il y avait même
un projet de loi qui était proposé par le ministre Luzolo, mais ça a été bloqué au niveau du Parlement.
Mais effectivement, parce que au niveau du Parlement, certains auteurs de ces faits-là y étaient présents. au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement. Sans oublier que le président Kabila lui-même, il vient de l'AFDEL et que dans le rapport, il y a certains faits commis, certains incidents qui sont mis sur la tête de l'AFDEL. Mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres éléments au niveau de la sous-région. Il y a l'implication du Rwanda, il y a l'implication de l'Ouganda, l'implication du Burundi, et tous ces pays, particulièrement le Rwanda, ont fait une campagne internationale qui n'a pas été contredite par les autorités de la République démocratique du Congo pour démontrer que le rapport n'était pas réalisé selon une méthodologie rigoureuse et qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies. Or, nous,
Cela veut dire que la RDC ne disposait pas d'un lobby fort à l'extérieur pour soutenir ces rapports.
Non, il ne s'agit pas d'un lobby fort. C'est-à-dire qu'il y a eu une politique au niveau national qui ne voulait pas mettre en vedette les recommandations de ce rapport. Il a fallu que des personnalités comme Herman Cohen, comme le docteur Mukwege, interviennent pour que ces dossiers reviennent sur l'agenda au niveau national comme au niveau international. Et même au niveau national aujourd'hui, le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a fait deux interventions importantes à l'Assemblée générale des Nations unies où il n'a pas mentionné cette question importante du rapport Mapping. Donc, voyez-vous, il y a eu une politique voulue et entretenue pour que ce rapport ne puisse pas connaître sa mise en œuvre. Vous savez que dans le rapport, les mouvements rebelles comme RCD Goma, RCD KML, l'AFDL, l'armée rwandaise, les MLC sont impliqués dans plusieurs incidents. Et donc, il y a eu des blocages à ce niveau-là. Mais l'opportunité que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir un président de la République qui n'est pas impliqué de loin ou de près dans les 617 incidents qui sont mentionnés dans le rapport. Et donc, il peut prendre la question de manière vraiment forte, de manière rigoureuse, pour que ce tribunal soit mis en place et que les victimes qui sont de plus en plus nombreuses, parce qu'il n'y a aucune région ou province de la République démocratique du Congo qui n'ait pas été impactée par ce qui est arrivé entre 1993 et 2003.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que déjà, du côté du gouvernement, il y a des signaux positifs pour la mise en place de ces chambres mixtes?
Il faut dire que les signaux sont encore très faibles, hein, parce que vous n'êtes pas sans oublier que le président Félix avait dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé. Or, les crimes qui sont décrits dans le rapport Mapping, personne ne peut y donner une suite à titre personnel. Je parle bien sûr des victimes. Aucune victime ne peut agir à titre personnel et trouver vraiment une suite dans la mesure où dans ce rapport, dans la commission des crimes qui sont décrits dans le rapport, il y a l'implication des personnalités qui sont dans des pays étrangers. Il y a l'implication des multinationales qui ont opéré en République démocratique du Congo pendant cette période trouble. Donc, cette volonté, elle est faible, mais elle commence à prendre de plus en plus corps parce que les ministres des droits humains, ils font de la justice transitionnelle sa préoccupation. Donc, c'est la préoccupation du gouvernement. Mais nous voulons avoir le contenu de ce que est attendu par la justice transitionnelle. Est-ce que c'est seulement le pardon? Est-ce que c'est seulement le fait qu'on ne poursuive pas les bourreaux dont certains sont dans les institutions, ou c'est le fait tout simplement de donner un fonds à titre de réparation aux victimes? Je pense que pour nous, il faut la combinaison de plusieurs mécanismes pour arriver vraiment à réparer ce qui est arrivé, c'est-à-dire à répondre aux besoins de justice, aux besoins de pardon, aux besoins de réparation, mais aussi aux besoins de réconciliation.
Bien. Maître Jean-Claude, on a suivi dans la première partie de cette émission, Maître Georges Kapiamba a proposé que ces tribunaux peuvent être mis en place dès l'année prochaine. Et pourtant, nous savons s'il faut engager des juges étrangers, ça a un coût, ça demande des moyens. Comment, sur le plan pratique, on peut arriver à concrétiser ce projet?
Pour moi, c'est une question de volonté. Si la volonté politique existe, ça va aller très vite. Mais si la volonté politique n'existe pas, même si les moyens sont là, on ne fera absolument rien. Mais je crois que mettre en place ces tribunaux mixtes, c'est vraiment une urgence parce que ce que nous connaissons encore aujourd'hui à Beni, Minembwe, ou dans le Sud Kivu, il y a encore des conflits communautaires, en Ituri, est aussi lié à notre attitude vis-à-vis des crimes commis dans le passé. Si ces crimes du passé étaient réprimés, je pense que beaucoup auraient tiré des leçons. Donc pour moi, quels que soient les moyens que cela peut demander, c'est un besoin au sein de la population, il faut qu'on mette en place ces tribunaux. Et j'estime personnellement que ce n'est pas un travail que nous devons laisser aux seuls politiciens. Il faut que le peuple s'implique pour que la justice se mette en place et que tous les dégâts qui ont été commis soient quand même réparés pour que la République démocratique du Congo reparte sur des bonnes bases.
Maître Jean-Claude, pour terminer, quelle est la procédure exacte à suivre pour aboutir à cela? Est-ce qu'il faut d'abord un projet de loi du gouvernement? Est-ce qu'il faut d'abord que le Conseil de sécurité des Nations Unies décide pour que les choses se mettent en place?
Personnellement, je pense qu'il faut que ces tribunaux aient un mandat qui découle du Conseil de sécurité pour permettre à ce que même ceux qui sont dans les pays étrangers qui doivent répondre devant ces tribunaux puissent le faire et que ça ne soit pas au départ une loi de la République démocratique du Congo qui met en branle le mécanisme. Je pense personnellement que c'est bien que ça parte du Conseil de sécurité.
Bien, merci Maître Jean-Claude Katende. Je rappelle que vous êtes président de l'Association africaine des droits, de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, ASADO en sigle. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci et à la prochaine.
Okapi Service.
Okapi, Radio Okapi.
Le conseil du jour.
Le sucre agit de manière très efficace sur la conservation des fleurs. Il suffit d'en ajouter une pincée dans l'eau pour nourrir les tiges et leur éviter de se décomposer. Au bout du 7e jour, vos fleurs devraient être complètement épanouies et durer encore quelques temps. Le charbon noir marche aussi pour les fleurs. Placez-en un petit carré dans votre vase et cela empêchera l'eau de croupir. C'est une astuce pratique quand on oublie d'échanger l'eau des fleurs. Pour conserver ces fleurs plus longtemps, il est aussi recommandé de couper leurs tiges en billets d'environ 1 ou 2 cm tous les 2 jours. Une opération qui permettra à la sève de mieux circuler et à vos fleurs de rallonger leur espérance de vie. Vous pouvez aussi placer vos fleurs naturelles au frigo dans leur vase avant d'aller dormir. Grâce à l'action du froid, elles absorberont mieux l'eau. Une astuce de grand-mère qui fait aussi ses preuves, c'est les bicarbonates des soudes. Comme pour les sucres, une seule pincée suffit pour que les fleurs tiennent au moins 10 jours. Pour que les résultats soient au rendez-vous, pensez à bien diluer les produits dans l'eau avant d'y placer vos fleurs. L'eau de Javel est aussi connue pour ralentir la prolifération des bactéries et la décomposition des fleurs coupées, mais elle doit être utilisée dans une moindre mesure. Au-delà d'une ou deux gouttes, vous risqueriez d'intoxiquer vos fleurs. N'oubliez pas que les premiers gestes sont également très importants lorsqu'il s'agit de conserver ces fleurs coupées. Utilisez un vase bien propre et assurez-vous que l'eau est à température ambiante et non glacée.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapoukou était à la réalisation, Bob Landou à la technique, Marcel Ngomomba Lakeba à la supervision, pas non, à la coordination. Au micro, Jody Daniel Keshama, à la supervision. Jean-Marc Matouaki, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence et la paix et à la prochaine. Thank God.